When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par Unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Raphaël, on va parler donc du match qui a eu lieu jeudi entre les 49ers et les Giants. 49ers 30, Giants 12. Victoire logique, j'ai envie de dire, des 49ers qui avait l'air, qui était trop puissant en fait pour New York.
Oui, victoire logique d'une équipe de San Francisco qui est plus armée et qui est meilleure dans tous les secteurs de jeu, aussi bien offensif, bien entendu, que défensif également. Probablement même meilleur au niveau du coaching, des équipes spéciales. Enfin bon, c'est pas pour rien. On avait les 49ers de mémoire quatrième de notre power ranking avant le début de saison. C'était un des gros favoris. C'est un des gros favoris au titre cette saison. C'est pas franchement surprenant de les voir battre une équipe des Giants qui certes avait surpris l'an dernier, mais autour de laquelle il y avait encore beaucoup d'interrogations et de doutes. Donc
On va commencer avec les 49ers en attaque. Christian McCaffrey est à 12 matchs de suite avec un touchdown. Il bat un record de Jerry Rice pour la franchise. C'est quand même, je suis pas fan des records un peu comme ça, trouvés. Mais quand tu bats un record de Jerry Rice, c'est quand même notable, quoi.
C'est quand même notable. Jerry Rice, c'était pas n'importe qui, clairement, dans l'histoire et dans les livres, on va dire, de la ligue. Donc oui, alors c'est un record à cheval sur deux saisons, mais. Effectivement, il est absolument impressionnant. C'est bien plus qu'un coureur dans cette équipe. C'est vraiment une arme offensive, l'arme offensive ultime, j'ai envie de dire, pour Kyle Shanahan. Là, je regardais, hein, mais alors, il est un petit peu en avance parce que lui a joué 3 matchs, mais sur les 353 yards qu'il a gagné au sol cette saison, il y en a déjà 228 après contact. Donc, en plus, il a cette capacité à aller casser des plaquages, à résister au contact. On l'a vu plusieurs fois où vraiment, des stiff arms, donc il pose son bras sur le joueur adverse pour le repousser, il casse les plaquages, il casse des chevilles, on va voir, hein, mais si les quarterbacks de la ligue restent à ce niveau-là et que les 49ers ont un très beau bilan, moi je le verrais bien être très proche du titre de MVP, hein.
Petit aparté, vous avez vu comment Raphaël est déjà conditionné pour 6 plays. Il a failli dire stiff arm et il a dit pousser avec le bras. Vous voyez, on doit se préparer à franciser les trucs. Et Raphaël, il est déjà dans le mood. Mais je reviens sur ce que tu disais. Ouais, McCaffrey, c'est impressionnant pour le coup. Et pour l'avoir justement commenté en plus sur les Steelers la première semaine. Là, il a 18 courses, il a 5 réceptions. T'as l'impression qu'il peut tout faire. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est vraiment le bon joueur au bon endroit, quoi. Il y a toujours souvent ce cliché quand il y a un transfert de dire ouais, ça y est, c'est le coach qu'il lui fallait, etc. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai, quoi.
Ouais.
Il pouvait pas mieux tomber, quoi.
Non, il pouvait pas mieux tomber parce que Shanahan arrive à exploiter vraiment l'ensemble de ses qualités, de sa palette offensive. En plus, il y a plein d'autres bons joueurs offensifs à côté pour aussi, mine de rien, attirer de l'attention parce que McCaffrey à Carolina, c'était déjà un excellent joueur. Mais seul problème, c'est que c'était un peu le seul très très bon joueur en attaque. Donc c'était quand même plus facile pour les défenses adverses aussi de se concentrer sur lui. Là, une défense qui se concentre trop sur McCaffrey, il y a quand même de l'autre côté Deebo Samuel, Kittle, Ayuk. Alors Ayuk n'a pas joué cette semaine, mais globalement dans le schéma classique, voilà, t'as quand même beaucoup de joueurs auxquels s'occuper. Donc ça lui donne aussi encore plus d'opportunités. Et puis bah le coaching offensif, les jeux appelés par Shanahan, être tout ça, parce que quand tu vois que McCaffrey un coup il est aligné dans le slot, enfin en tout cas en position de receveur intérieur, puis après il part sur l'extérieur, puis il revient au poste de coureur, enfin voilà, il est capable de le mettre un peu n'importe où sur le terrain, de compliquer la lecture pour la défense adverse. Donc, je te rejoins. Je pense qu'il pouvait pas se régaler à beaucoup plus d'endroits qu'à celui-là, clairement.
Ça le dit beaucoup sur le chat. Les 49ers sont les favoris ultimes. Donc, c'est Défaut qui nous dit ça. S'il n'y a pas de blessure, ils vont au titre, nous dit Paps. C'est vrai que là, on parle de McCaffrey. Tu le disais. Derrière, il y a Samuel qui a 6 réceptions, 129 yards. Kittle qui prend 7 ballons. Ayuk est même pas là alors qu'il faisait un très bon début de saison. Purdy a été comment pour toi? Il a 25 sur 37, 310 yards de touchdown. J'ai l'impression que ça joue. Alors, c'est pas exceptionnel, mais il joue juste, quoi, pour les appels de
C'est
jeu,
ça.
pour ce qu'il y a à faire.
C'est ça, il joue juste. Ça n'a pas été exceptionnel. Il y a encore une fois quelques passes en profondeur, pas très précises qu'on avait déjà vues la semaine dernière. Mais bon, globalement, il fait ce qu'il a à faire. Il met le ballon dans les bonnes mains au bon moment. En fait, là où il est très bon, c'est sur la lecture. Il analyse bien ce qu'il doit faire. Et il le fait bien, il choisit la bonne option. Et après, finalement, il laisse parler le talent de ses partenaires. Qui sont, enfin, je parlais de McCaffrey, mais Deebo Samuel, pour le moment, c'est aussi le receveur dans la ligue qui a gagné le plus de yards après réception. Donc voilà, il donne la balle au bon gars, et puis après, les mecs font ce qu'ils ont à faire, et donc le mérite lui en revient, parce qu'on pourrait parler de plein d'autres quarterbacks dans cette ligue qui choisissent pas les bonnes options et qui ne font pas le bon choix. Lui a le mérite de le faire,
Ouais,
mais.
je vois qu'il y a encore débat sur Purdy dans le chat, mais c'est vrai que la question, c'est pas encore de dire qu'il doit être. Alors j'allais dire, il doit pas encore être Tom Brady fin de carrière, il doit être Tom Brady début de carrière. C'est-à-dire que le mec qui fait les bons choix, qui gère une équipe blindée comme ça, et après, si on parle aussi d'eux des fois là comme un prétendant au titre, etc., c'est aussi parce qu'il y a une défense qui fait du boulot. C'est-à-dire que là, il limite les Giants à 12 points. Alors évidemment, c'est pas une équipe des Giants très fringante. Il y a pas Saquon Barkley, il y a pas des grands receveurs, etc. Mais mine de rien, il y a de la pression tout le temps sur Daniel Jones, et du coup, les Giants ont l'air complètement coincés et sans solution, quoi.
Oui, c'est ça. Ils se sont retrouvés vite, vite sous la pression. Alors Daniel Jones a été sur plus de la moitié de ses tentatives de passe, était sous pression. Forcément, il lui manquait aussi des hommes hein, sur la ligne offensive, donc ça n'a pas aidé. Mais même si les titulaires de New York avaient été là, j'ai pas trop de doutes ou d'hésitations sur le fait que la ligne défensive de San Francisco aurait dominé ce match. La pression peut venir d'un peu tout le monde. Hargrave. Bossa, même un Cleveland Ferrell qui n'a pas de sac sur ce match, mais on sent qu'il est capable de faire quelques belles actions parce que justement il est plus autant regardé qu'à Las Vegas. Bon, le système est complet et puis la paire de linebackers Fred Warner, Greenlow, c'est
Ça reste, ouais, c'est ça, c'est quand même une
ouais,
équipe
c'est bon.
hyper hyper complète. Si je vais d'ailleurs sur la page classement du site et qu'on se regarde un peu qui il y a, on parle de favoris. Alors on va pas partir tout de suite sur favoris de la saison, etc., mais on peut au moins dire peut-être en NFC, quoi. Si là je mets la NFC.
Oui, en NFC, ils paraissent peut-être à l'heure actuelle l'équipe la plus en forme avec Dallas, mais Dallas vient de perdre son cornerback numéro 1, donc ça demande aussi à un peu à voir, même si je pense pas que Diggs est la pièce principale de Dallas, mais malgré tout, ça reste à voir comment ils vont s'adapter à ça.
Ceci étant dit, il y a plusieurs personnes qui font remarquer sur le chat qui sont déjà très vite en forme. Je pense que Philadelphie, par exemple, peut monter en régime et être très très fort en fin de saison.
Oui, je pense que Philadelphie est en rodage offensif notamment. Oublions pas que Philadelphie a perdu coordinateur offensif, coordinateur défensif. Ils sont en train de se mettre en rodage. J'ai pas trop de mal à imaginer que Philadelphie va être à armes égales contre San Francisco en fin de saison. Mais après, San Francisco arrive très vite en forme, mais ils peuvent garder cette forme, hein. Ça existe aussi ça existe, hein, des équipes NFL qui font une belle saison toute l'année et qui sont fortes de A à Z et qui vont au bout, hein.
Oui, et puis pour le coup, c'est aussi parce que le coaching marche bien. Donc ça, c'est pas non plus, c'est pas comme si. Alors évidemment, il y a toujours le problème le spectre des blessures sur McCaffrey. Bon, Purdy se blesse l'an dernier, c'est la faute à pas de chance. Mais il y a toujours ça. Mais après, on peut le dire pour toutes les équipes. Donc évidemment, McCaffrey a un passif. Mais bon, après, encore une fois, comme tu dis, ils sont tellement bien coachés que ils peuvent rester en effet en mode rouleau compresseur. Mais c'est un peu comme ça qu'on les avait présentés pendant toute l'intersaison de mémoire. C'était un peu cette équipe rouleau compresseur qui est pas forcément toujours sur des superstars qui font des grands matchs, mais c'est tellement efficace de tous les côtés que tu es obligé quand même de les mettre parmi les favoris de la NFC. Du côté donc de la NFC Est, je reviens à ces Giants pour boucler ce débrief, Raphaël. Daniel Jones, 22 sur 32, 137 yards d'une interception, c'est un tout petit match. Est-ce qu'on est revenu aux Giants, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, ou est-ce que c'est vraiment là les blessures? J'ai l'impression qu'au-delà des blessures, quand même, cet effectif, il s'est pas particulièrement bonifié, quoi.
Ouais, c'est effectivement, je serais plutôt de cet avis-là. Bien entendu, tu as les blessures que tu peux pas enlever, mais malgré tout, les squats de receveurs donnent pas le sentiment d'avoir vraiment progressé malgré beaucoup d'ajouts, hein. Ils ont fait de la quantité, Darren Waller, Paris Campbell, ils ont essayé d'aller chercher des gars. Pour le moment, ça paye pas énormément dans le jeu aérien, c'est pas très visible. Et je suis aussi un peu étonné, je trouve que Daniel Jones court beaucoup moins cette saison que l'an dernier. Et l'an dernier, mine de rien, ça avait quand même été une belle réussite de le faire courir parce qu'il a des jambes. Donc voilà, globalement, le coaching offensif pour le moment, et d'ailleurs, il y a un petit peu de flou, hein, parce qu'on voit que des fois, on nous dit que Brian Daboll reprend l'appel des jeux offensifs, puis il les relâche à Kafka, puis il les reprend. Enfin, il y a l'air d'avoir un peu de flou offensivement, ils ont l'air d'être un peu perdus. Donc, à voir si le coaching arrive à remettre ça en place, mais c'est vrai que c'est pas enthousiasmant et finalement on est peut-être que ces Giants-là, ils étaient un peu entre deux, entre la saison avant Daboll et la saison l'an dernier à Daboll un peu surprenante et c'est peut-être une équipe qui est un peu entre les deux, ce qu'on avait un peu nous envisagé de notre côté globalement hein, de mémoire sur les fiches de pré-saison.
Moi, ce que je comprends pas dans ces cas-là, tu dis en plus ils ont recruté beaucoup de receveurs, etc. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi tu prends pas des mecs. Alors évidemment, t'as d'autres choix à faire et tout, mais pourquoi tu prends pas des mecs à la draft plutôt que de retenter le coup sur des Paris Campbell, des mecs comme ça qui. Bon voilà, on sait qu'ils sont moyens quoi, hein.
Oui,
Ils
oui.
vont pas avoir une révélation pendant l'intersaison et devenir Randy Moss quoi. Donc je suis toujours un peu je suis toujours un peu circonspect là-dessus. Il y a Mats Lindgren qui met un message sur le chat un peu inquiétant qui dit ligne offensive, receveur et linebacker sont les points faibles des Giants. Ça fait des gros points faibles quand même.
C'est des gros points faibles. Alors la ligne offensive, elle l'est parce qu'il y a deux titulaires au moins. En tout cas, il y a Andrew Thomas et le nouveau centre qui était blessé. Donc pareil, maintenant, les blessures, c'est aussi le lot un peu de tout le monde dans la ligue. Cette année, on a quand même une petite liste de blessés avant match qui est pas négligeable à gauche à droite. Donc oui, c'est un point faible. Les linebackers, bon, j'ai envie de dire que c'est le système défensif de Wink Martindale, hein, de ne
Oui.
jamais miser sur des gros linebackers. Bon, ça a pas tout, enfin, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, moi, le manque de linebackers. Je suis pas.
Après, on a ce biais toujours de se concentrer sur Daniel Jones, on va peut-être finir par ça, mais la défense est aussi un peu moins bonne, et c'est peut-être ça qui leur fait mal.
Oui, ouais, la défense est un peu moins bonne. Là, sur ce match, ils ont blitzé énormément Brock Purdy pour essayer de le déstabiliser, avec très très peu de succès pour le coup. Bon, comment dire, c'est l'idéologie, on va dire, Martindale, hein. Souvent, il a un schéma de jeu pour un match et il l'applique de A à Z et il va jusqu'au bout et il meurt avec. Là, clairement, il est mort avec. La défense n'est pas au niveau de l'an dernier, mais je trouve qu'il y a quand même des bons éléments, notamment sur la ligne défensive, pour peut-être un peu progresser d'ici la fin de saison. Moi, c'est quand même l'attaque dont la dynamique m'inquiète le plus.
Eh bien, merci beaucoup, Raphaël.
Et bien de rien.
Et on te retrouve au résumé des matchs ce soir et
Tout
évidemment
à
dans le
fait.
podcast cette semaine sur le débrief complet qui sera en ligne mercredi matin, si je dis pas de bêtises.
Je crois que c'est ça.
Je crois que c'est ça aussi. Bon, merci beaucoup, Raphaël, en tout cas.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.